Mais non, il y a une vie après normal. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans l'émission, votre émission favorite bien sûr, il y a une vie anormale, je veux dire, il y a une vie après normale. Quentin et moi aujourd'hui avons le plaisir de recevoir Raphaël Cherrier. Ancien élève de l'ENS de Lyon, physicien de spécialité, vous êtes aujourd'hui à la tête de QSIT, une entreprise jeune et innovante, basée à Bordeaux, qui apporte sa pierre à l'édifice de la protection environnementale en contribuant au développement des smart cities, ou villes intelligentes, pour ceux qui ne parlent pas anglais, grâce à la mise au point d'outils et de modélisation destinés à rendre tout à la fois plus efficace et écologique, notamment les modes de transport en commun en ville et plus globalement les systèmes urbains complexes. Donc, en 1995, au terme de 2 années de classe préparatoire, vous intégrez l'ENS de Lyon. Vous êtes admis au concours 2e et êtes le plus jeune normalien de votre promotion, raconte votre profil LinkedIn. Quel effet cela vous a-t-il fait ?
Ça m'a fait très plaisir à l'époque d'être admis à l'ENS. Rétrospectivement, ça me fait plus grand chose de particulier si on se base sur les données chiffrées que tu viens de donner.
Moi, j'aimerais savoir. Donc à l'époque, l'école normale supérieure, donc en sciences exactes et expérimentales, est déjà à Lyon. Donc vous n'êtes pas quelqu'un de Fontenay-Saint-Cloud, puisque nous le rappelons, vous êtes relativement jeune. Quel âge avez-vous déjà ?
38 ans.
38 ans, non, c'est encore jeune, 38 ans. Comment vivez-vous l'arrivée à Lyon, puisque je suppose que vous n'étiez pas lyonnais dans votre classe préparatoire ? Comment la ville, tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est une ville qui vous a plu, puisqu'aujourd'hui vous êtes sur Bordeaux, donc vous avez déménagé ? Nous aimerions savoir d'ailleurs pourquoi, et je sens Pauline qui veut parler, donc je vais laisser Pauline parler juste avant de vous redonner le micro, Raphaël Cherrier.
Oui, la question sur votre vie ou votre arrivée à Lyon, c'est aussi parce que voilà, Lyon fait figure aujourd'hui de grandes villes qui se développent beaucoup, et qui fait aussi beaucoup de paris, notamment sur l'écologie, un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un lien entre votre vécu à Lyon et ensuite votre intérêt pour les smart cities et votre intérêt pour l'urbain ?
Alors déjà, il faut dire que Lyon, c'était la première grande ville où j'habitais quand je suis arrivé à Lyon, vu que j'ai habité Paris, mais en banlieue parisienne, donc c'est une grande ville. Après, j'étais en prépa pendant 2 ans et donc à 18 ans, j'arrive et c'est la vie en ville qui commence. Donc Lyon, c'était, et je pense que c'est toujours, une ville très sympa, très aquatique, avec deux fleuves qui se croisent. Donc c'est une très bonne expérience. J'aime bien me souvenir. Je connais pas très bien Lyon aujourd'hui. Donc je sais pas si ce qu'on entend par smart cities à Lyon. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de projets avec OptiMode, etc. Mais c'est vrai que c'est un point que je connais pas bien vu que je vis plus trop à Lyon. Mais l'ensemble des villes globalement, à mon avis, a vocation à aller vers plus d'ouverture des données numériques et plus d'amélioration de la qualité de vie et des transports grâce au numérique, si c'est ça dont on parle.
Alors juste une petite intervention. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez précisément par smart cities au-delà de la traduction littérale. Qui veut dire ville intelligente. Vous soulignerez mon niveau d'anglais assez impressionnant. Je voudrais savoir qu'est-ce concrètement pour vous qui êtes là-dedans, qui pouvez voir, apprécier tous les côtés à la fois techniques, à la fois grand public, qu'est-ce que ça veut dire être une smart cities aujourd'hui ?
Alors pour moi, si on fait le parallèle entre une ville et le corps humain, initialement on a construit des villes, on a construit le squelette des villes, c'est-à-dire il a fallu les organiser, tracer des routes, construire des immeubles et faire en sorte qu'on puisse circuler dans cette ville. Et ça, c'est les premiers flux qu'on commençait à circuler, organiser le trafic des voitures au XXe siècle, puis des transports en commun, c'est-à-dire vraiment créer de l'infrastructure. Ces 10, 15, 20 dernières années, on a commencé à faire circuler beaucoup d'informations dans ces villes, avec, bien sûr, Internet, mais tout un tas de choses, beaucoup de capteurs qui remontent de l'information. Ce que j'entends par Smart Cities maintenant, c'est qu'une fois qu'on a le squelette, une fois qu'on a le corps, une fois qu'on a les flux qui circulent et une fois qu'on a des sens, les capteurs pour mesurer ce qui se passe en ville, mais il ne reste plus qu'à rajouter un cerveau.
Waouh ! Et ça sent l'agrégé de physique. Parce que oui, vous avez passé l'agrégation avant d'être entrepreneur. Vous avez passé l'agrégation, vous avez également fait un doctorat après un master, spécialisé en plus en physique théorique. A priori, rien ne vous destinait donc à l'entrepreneuriat et particulièrement. Mais à la base, est-ce que quelque chose vous destinait à la physique ? Et pourquoi, à vos débuts avez-vous choisi, disons, la voie de la physique et notamment de la physique théorique ?
La voie de la physique, c'est quelque chose qui date quand même d'assez longtemps. Depuis que je suis tout petit, j'avais envie de comprendre comment le monde fonctionnait, depuis le Big Bang jusqu'à la mécanique quantique. Et, donc c'était assez naturel de vouloir comprendre toutes les théories physiques. Et effectivement, c'est ce qui m'a attiré vers... d'ailleurs, j'ai fait un DEA de physique théorique à l'ENS de Lyon, où on voyait toutes ces choses-là. Et ensuite, je me suis orienté vers de la physique statistique, qui correspondait mieux à mon goût pour le trouver de l'ordre dans le désordre, en fait. Donc voilà d'où vient mon attrait pour la physique. En fait, il date depuis toujours, je dirais. C'est vraiment pour moi en fait la compréhension du monde, en fait. C'est-à-dire on a un langage mathématique qui permet de comprendre comment le monde fonctionne, et c'est ça le boulot du physicien, c'est arriver à grâce au langage mathématique à arriver à avoir une meilleure représentation du monde dans lequel il vit. Et ça peut s'appliquer à des systèmes physiques, à des solides, à ce qu'on veut, mais ça peut également s'appliquer à décrire des comportements humain. Et il y a déjà pas mal de gens qui travaillent là-dessus, par exemple, ne serait-ce qu'à l'ENS à Lyon, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les systèmes complexes, où en fait on cherche à modéliser l'humain de la même manière qu'on modéliserait la nature, et on va modéliser en fait le comportement humain, comment les gens se déplacent, pourquoi, etc.
Est-ce que vous auriez un exemple concret de ce que vous apporte la physique, à la fois théorique comme statistique, appliqué à votre entreprise QCIT. Un exemple très simple, assez concret, en quoi les traitements statistiques, les modélisations statistiques vous permettent de comprendre certaines choses ou sont employées dans ce que vous faites.
Alors déjà, ça sert vraiment tous les jours, hein. Ça c'est la base. Ça sert tous les jours. Nous en fait, ce qu'on fait, c'est prédire les comportements de mobilité des gens. Donc c'est à dire qu'on a des grandes masses de données qui sont par exemple des données contextuelles. Ce que j'entends par là, c'est par exemple la météo, le calendrier. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux? Est-ce qu'il y a des pannes sur les transports en commun? Ça c'est des événements contextuels qui vont nous permettre de mieux comprendre, par exemple, comment une station de Vécube, le Vécube c'est les Vélib, c'est les Vélov' bordelais. Comment elle se remplit. Et ça, évidemment, derrière, il y a des raisonnements de physique statistique, de la même manière que les physiciens traitent, font des modèles microscopiques pour comprendre le comportement macroscopique de certains systèmes. Donc le lien, il est assez naturel, en fait.
Et justement, pour revenir sur ce que vous disiez tout de suite, sur le fait que depuis très jeune, vous vous intéressez à la physique, également en termes de simplement exploration du monde et de comprendre un certain nombre de phénomènes, est-ce que lorsque vous étiez encore étudiant, vous aviez déjà d'autres ambitions, justement, que, par exemple, la recherche, l'enseignement, que l'on... Voilà ce parcours qu'on suit classiquement quand on est dans une ENS. Et est-ce que ça, c'est aussi lié avec votre profil d'enfant curieux tous azimuts?
Ouais. Alors, effectivement, à un moment, pendant que je faisais encore mes études, j'avais l'objectif de devenir astronaute. Donc ça fait un peu un rêve d'enfant. Et j'ai effectivement commencé à m'intéresser à ça pendant ma thèse, en me disant déjà que j'allais réorienter mon sujet de thèse ou changer de sujet de thèse à un moment pour aller faire de la planétologie martienne ou quelque chose comme ça. Donc oui, à un moment, il y a eu quand même des choses qui sont passées. Donc ça, c'était une des autres pistes que j'ai explorées à un moment, que finalement j'ai laissé de côté. Ensuite, c'est vrai que j'ai toujours eu cet intérêt pour comprendre comment le monde fonctionne et puis trouver de l'ordre dans le désordre, etc. Pendant mes études à l'ENS, en fait, je pense pas que à aucun moment j'ai eu l'idée de créer une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est clair que c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Mon objectif, c'était vraiment de... Je pense que ce qui m'attirait à la fois dans l'ENS et dans le boulot de chercheur, c'était la création. J'ai toujours voulu créer quelque chose et comprendre également comment les choses fonctionnent. Mais créer des théories physiques, quand on est chercheur, ça revient à faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Donc c'est vraiment de la création, pour certains artistiques, pour d'autres scientifiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose de constant. C'est un point commun entre ce que je fais aujourd'hui et ce qui m'a fait venir à l'ENS. Et puis finalement, ce goût pour la création, je pense qu'aujourd'hui, il se réalise différemment, c'est-à-dire créer une entreprise, penser à une société future et voir comment, en fait, à partir des compétences qu'on est capable de rassembler chez QCIT, on peut faire avancer la société.
Alors, au terme de votre doctorat donc, que vous avez réalisé à l'Université de Toulouse Paul Sabatier, vous devenez professeur et enseignez à l'ENSAM Paris Tech et aux Arts et Métiers à Bordeaux. Vous enseignez près de 10 ans au final, si je ne me trompe, ce qui fait un certain nombre d'années. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est justement, qu'est-ce que vous a apporté l'enseignement, l'expérience d'enseigner? Est-ce que ça vous a apporté des choses que vous appliquez dans votre travail au quotidien. Et est-ce que au moment où vous l'avez fait, c'était pour vous la suite logique qui conduit vers l'aboutissement, c'est-à-dire maître de conférence puis professeur, ou est-ce que à l'époque c'était déjà une transition? Alors vous avez abordé même très clairement le sujet, puisqu'apparemment c'était un prélude vers une envolée vers les étoiles. Donc je garde cette petite formule pour la question d'après. Vous allez voir qu'elle tombe à pic. Donc qu'est-ce que vous avez retiré de ces années d'enseignement et que vous appliquez dans votre quotidien avec votre entreprise?
Alors très clairement, quelque chose que je retire, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, tous les salariés de QCIT, non seulement il y a un trait de caractère qui est fondamental pour travailler chez nous, mais il y a aussi quelque chose qui est très très important pour moi, c'est cette volonté d'être en permanence en train d'apprendre et en permanence en train de s'améliorer et de se tenir au courant de ce qui se passe et de vouloir exceller dans le domaine dans lequel on travaille. Et c'est vrai qu'avoir été prof pendant un certain nombre d'années, j'ai probablement cette vision de vouloir amener, parce chez QCIT, on a pas mal de jeunes, hein, je suis de loin le plus vieux. Je dirais même qu'aujourd'hui, tout le monde a moins de 30 ans, à part moi, à part une personne qu'on va probablement recruter bientôt. Donc ça veut dire que c'est des gens assez jeunes, qui sortent soit de Master 2, soit de doctorat. Donc effectivement, moi j'ai cette volonté de les encourager et de les aider autant que je peux à continuer à progresser, à se former et à exceller dans leur domaine.
Et justement, le fait de passer d'un milieu d'enseignant à un milieu d'ingénieur, donc qui est un milieu très technique, dominé avec des contraintes portées plutôt par des contraintes pratiques et des objectifs concrets, donc, d'où ma petite escapade sur cette histoire de lune. Alors que vous étiez plutôt dans le théorique, n'a-t-il pas été un petit peu difficile au début? Est-ce qu'il y a eu une sorte de période où vous vous sentiez un peu déphasé, ou est-ce que ça s'est fait naturellement dès que vous êtes rentré dans ce milieu-là?
Passer de la physique théorique à la physique plus appliquée, c'est ça?
En fait, ce que je me posais comme question, c'était dans la mesure où vous avez enseigné surtout dans des écoles d'ingénieurs, finalement, et pas tellement dans le milieu universitaire classique, par exemple dans une ENS, etc. Est-ce que pour vous, ça a été déjà difficile de passer d'un monde comme celui de l'ENS à celui plutôt d'école d'ingé? Et le fait d'avoir été enseignant dans ce milieu-là, vous a-t-il permis ensuite de mieux raccrocher vers le monde de l'entreprise, justement, avec aussi tout ce côté innovation technologique? Voilà, c'était un peu l'idée.
Ok, bien vu. Bien vu, Pauline. Donc, effectivement, c'est vrai que passer de la physique théorique à l'école d'ingénieur et à des choses vraiment appliquées, ça a été difficile au début. Je le cache pas, ça a été difficile. En fait, j'étais quand même venu pour... quand j'ai pris le poste de maître de conférence aux Arts et Métiers ParisTech, à la base, c'était pour travailler sur la séquestration du dioxyde de carbone dans des aquifères salins. Donc, c'était de faire la mécanique des fluides en milieu poreux, donc désordonné. Donc, il y avait un petit truc de désordre. Mais c'était surtout parce qu'à cette époque, je cherchais en fait une manière d'utiliser ce que je savais faire, c'est-à-dire la physique, pour avoir un impact sur l'environnement. Et donc cette idée de participer à séquestrer du CO2 et donc à résoudre la problématique de l'effet de serre, c'est ça qui m'a fait prendre ce poste de maître de conférence à Bordeaux. Ce que je voulais plus être dans la physique complètement théorique et loin de tout. Je voulais faire le même genre de boulot, c'est-à-dire résoudre des équations, réfléchir à des problèmes, mais avec un impact direct sur l'environnement en l'occurrence et donc sur l'effet de serre. Au final, effectivement, le côté école d'ingénieur, c'est vrai que c'était un peu par moments difficile. parce que je me suis retrouvé à enseigner des cours sur lesquels je connaissais pas grand chose, qui m'avaient jamais vraiment intéressé. En parallèle, c'est vrai que pendant ces 10 ans, j'ai eu une vie personnelle assez productive. Donc c'est là où j'ai fait pas mal de trucs à côté, où j'ai créé une asso d'impro, j'ai fait tout un tas de trucs. Donc ma vie personnelle était très 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 intense.
Et comment le concept de votre start-up vous est venu exactement?
Alors, en fait, le concept de la start-up, je pense qu'en fait, j'avais une envie depuis quelques années, donc ça c'était en septembre 2013 où j'ai pris une disponibilité donc pour créer QCIT. Donc c'était un peu plus de 2 ans. Et en fait, c'est que ça arrivait à un moment où j'avais vraiment, vraiment envie de repartir dans une phase de création et où j'estimais que le milieu universitaire ne me correspondait plus et ne satisfaisait pas toutes les facettes de ma personnalité. Et que donc, après avoir essayé pendant un grand nombre d'années de me convaincre que j'étais fait pour la recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Et donc ça faisait quelques années que je m'en rendais compte déjà. Et j'avais effectivement cette volonté, non pas de rentrer dans un grand groupe ou dans une banque, puisqu'à un moment aussi, dans les années 2007-2008, j'avais fait pas mal de trading algorithmique. J'avais bossé avec une autre startup. Trading algorithmique, ça reste de l'analyse de données. J'avais pas envie de bosser finalement ou de rejoindre des hedge funds pour avoir une activité qui soit uniquement produire de l'argent. Donc effectivement, il y avait déjà cette volonté depuis quelques années. Et à un moment, je me suis jeté à l'eau, en fait, c'est parce qu'il faut bien se jeter à un moment. Et ça s'est fait à l'occasion... Déjà, ça avait commencé avec un projet sur les V-Cubes sur Bordeaux, où je m'étais dit, le jour où ils ont installé les V-Cubes à Bordeaux, je me suis dit quand même, ce truc-là, ça pourrait fonctionner certainement beaucoup mieux si on analyse les données. Donc j'étais allé voir Keolis, qui gérait les données des V-Cubes sur Bordeaux, et j'avais commencé à travailler un petit peu dessus, à prendre quelques stagiaires. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, ça c'est sympa. Je suis sûr qu'il y a d'autres... d'autres systèmes qu'on pourrait étudier à part le V-Cube et dans lesquels des compétences de physiciens, théoriciens, statisticiens d'analyse de données pourraient permettre d'améliorer le fonctionnement de ces systèmes.
Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette analyse des V-Cubes justement? Quels résultats avez-vous pu tirer de l'analyse des données et quelles conséquences a eu en termes pratiques cette analyse de données sur les V-Cubes?
Alors pour le moment, donc il y a un an, on a sorti la première application mobile prédictive, donc on prédit le nombre de vélos en station sur Bordeaux. On l'a pas encore répliqué ailleurs, c'est un problème de commercialisation en fait. Depuis un an, on a fait un certain nombre d'erreurs sur la manière de commercialiser le produit, il faut bien dire ce qui est. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien meilleur qu'un an. Et donc, qu'est-ce qu'il en est sorti en pratique? Pas grand-chose à cause de ces temps de commercialisation assez longs. Ce que moi, je voulais qu'il en sorte, mais à mon avis, ça va très bientôt se concrétiser, c'est que notre solution soit utilisée également par les opérateurs de vélos en libre-service pour déplacer leurs camionnettes de manière plus efficace et donc parcourir moins de kilomètres, offrir un service de meilleure qualité. Et donc ça, effectivement, on est en contact maintenant aujourd'hui avec plusieurs opérateurs de vélos en libre-service pour mettre cette... solution en fonctionnement. On a également développé des modèles pour le stationnement automobile où là l'objectif c'est de vous dire à l'avance, par exemple, vous allez mettre une demi-heure à vous garer. Et donc une fois que vous savez que vous allez mettre une demi-heure à vous garer dans ce quartier, parce que nous on l'a calculé pour vous. Bon, c'est une moyenne, hein, évidemment, vous pouvez avoir de la chance ou pas. C'est une incitation à peut-être soit aller se garer directement au parking, soit utiliser un autre mode de transport pour sortir, soit aller se garer dans un quartier où il faut qu'un quart d'heure pour trouver une place. Et donc vraiment, on cherche en fait des applications comme ça sur différents systèmes en utilisant de l'analyse de données prédictive et contextuelle pour donner des informations à l'usager et améliorer comment les opérateurs derrière gèrent les modes de transport. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce à quoi on l'applique, que ce soit le vélo en libre service ou que ce soit le stationnement, l'idée c'est que au fond, ce qu'on fait, c'est on construit un modèle algorithmique de ville et derrière, on peut décliner la prédiction de différents types de choses.
Alors, vous évoquiez les difficultés qu'avaient rencontrées certaines de vos applications, notamment au niveau de la commercialisation. Et tout ce qui est compétences commerciales, c'est des choses qu'on n'apprend pas trop à l'École normale supérieure de Lyon. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à négocier ces questions-là qui vous étaient originellement étrangères? Est-ce que ça vous pose encore des difficultés aujourd'hui? Est-ce que maintenant, est-ce que c'est le terrain qui vous a appris? Est-ce que on va évoquer au cours de l'interview une formation complémentaire à HEC notamment? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de mettre le pied à l'étrier sur ces questions-là? Comment est-ce que ça s'est passé?
Je pense que la première chose, c'est déjà, il faut avoir violemment envie de s'y mettre, en fait. C'est parce que c'est au-delà d'une formation universitaire, même à HEC Paris, hein, qui est une super formation, Challenge Plus, auquel j'ai eu la chance de participer, et qui en plus offre un réseau assez sympathique d'autres entrepreneurs. Au-delà de ce type de formation, je pense qu'à un moment, il faut vraiment avoir envie, quoi. Il faut avoir envie de se dire, je m'intéresse à ces problématiques et je le fais pas en rechignant. Après, il faut être conscient qu'il faut aussi être capable d'étoffer l'équipe de gens qui sont plus calés que soi pour ce genre de choses. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Être chef d'entreprise, créer une entreprise, on fait plus beaucoup de data science, hein. Moi, j'en fais encore un petit peu en coachant un petit peu les équipes sur certaines choses, mais à terme, j'espère que je trouverai quelqu'un pour me remplacer sur ce poste-là. Parce que, en fait, un boulot de chef d'entreprise, au début, c'est faire absolument tout. C'est faire du juridique, faire des RH, et faut apprendre sur le tas et faut avoir très très envie d'apprendre et faut rien lâcher en fait.
Et justement, bah, vous l'évoquiez tout de suite, question ressources humaines, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile quand on est patron, chef d'entreprise? Je sais pas, enfin par exemple, à combien de salariés vous tournez et un peu quelle est finalement votre approche ou sinon votre politique en termes de gestion des ressources humaines et de recrutement? Est-ce que vous visez des normaliens absolument ou enfin voilà.
Alors, en termes de ressources humaines, aujourd'hui, pour répondre quantitativement, on est 7 en CDI, dont moi. Sur les 7, il y a 2 normaliens, dont moi. Après, c'est vrai que les autres, pour le moment, sont essentiellement des ingénieurs. On a un doctorant également. Et progressivement, on va commencer à recruter également quelques commerciaux. Donc, la politique de ressources humaines, c'est vrai que pour faire de la data science, pour faire ce qu'on fait, en général, ça s'adresse à des gens qui sont minimum master 2 dans une discipline scientifique. Et effectivement, on est aussi très intéressé par de jeunes docteurs dans des disciplines quantitatives, quoi.
Vous évoquiez aussi tout à l'heure votre passage par HEC et nous demandions quel était vraiment le contenu de la formation que vous aviez reçue là-bas, comment vous en aviez entendu parler également et finalement quels étaient le profil de vos entre guillemets camarades dans cette formation et comment le dialogue s'est noué et peut-être s'est poursuivi avec eux.
Alors j'en ai entendu parler parce que j'étais dans un incubateur, donc l'incubateur régional d'Aquitaine, ceux qui m'ont parlé de cette formation. Cette formation, elle a été financée, si j'ai bonne mémoire, par un concours qu'on a remporté. Et donc, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette formation? Bah, en fait, c'est déjà, alors, c'est 24 jours de cours. Donc, 8 heures par jour. Et, ça se passe, sur le campus d'HEC. Donc, 3 jours par mois pendant 8 mois. Avec une interruption en juillet-août. Donc, ça couvre à peu près tout, en fait. Tout ce qui est lié à la création d'entreprise. Donc, on a des aspects financiers, on a même des aspects RH, on a des aspects, stratégie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça se fait sur la durée, ce qui fait qu'on peut essayer de mettre en pratique au fur et à mesure ce qu'on apprend pendant les premiers cours dans la phase de création dans l'entreprise. Donc moi, quand j'ai commencé cette formation à HEC, l'entreprise n'était pas encore créée et à la fin de la formation, elle l'était. Donc elle a été créée au milieu, fin mai 2014, donc c'était au milieu. Ensuite, mes camarades de promo, quel profil ils ont ? Il y a beaucoup de gens qui viennent de labos de recherche, parce qu'en fait elle est faite pour ça, cette formation. C'est une formation pour des startups dans l'innovation. Donc comme l'innovation, ça vient assez souvent de transferts de technologies depuis des labos de recherche publics. Il y a donc pas mal de gens qui viennent de labos de recherche publics, et puis il y en a d'autres après qui viennent d'ailleurs. Comment se maintient la relation ? Elle se maintient par des mails, il y a un club auquel on se retrouve une fois par mois ou ce genre de choses.
Alors vous évoquiez les incubateurs, notamment donc celui d'Aquitaine qui vous a fait prendre connaissance de cette formation HEC. On entend beaucoup parler des incubateurs aujourd'hui dans les médias, dans les discussions, sans vraiment savoir ce que c'est, en tout cas au moins personnellement, concrètement dans le détail, je ne sais pas. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors peut-être le principe d'aider les startups est vaguement acquis, mais alors après dans le détail, comment est-ce qu'on vous aide et est-ce que c'est vraiment important un incubateur puisque on en parle tout le temps?
Alors, en pratique, c'est très variable. En fait, il y a bien la notion d'incubateur, mais alors on nous aide de plusieurs manières. Première manière, déjà en ayant un hébergement quasi gratuit. Ça aide pas mal quand même. Il y a un certain nombre de formations, de points qui sont sur lesquels on peut être assisté. Il y a un truc qui est important en France quand même, c'est les subventions à la R&D. Et c'est quand même assez important aujourd'hui pour démarrer une start-up parce que contrairement aux États-Unis, il n'y a pas autant de fonds privés qui sont investis dans les start-up. Par contre, les politiques d'incitation en France et les subventions pour les jeunes entreprises sont super bien développées. Et les incubateurs, d'une certaine manière, sont relais de... Enfin, au moins donnent l'information et peuvent aider à monter des dossiers. Donc ça, c'est quand même assez important parce que c'est vrai que si on fait une start-up innovante en France, il faut pas se priver d'utiliser ces mécanismes parce que c'est ce qui vient en partie compenser la difficulté ensuite à lever des fonds par rapport à d'autres pays. Par contre, c'est donc un avantage très fort pour les jeunes entreprises en France. Et en fait, il est relativement facile, à mon avis, de créer une entreprise innovante en France. Alors maintenant, comment ça fonctionne les incubateurs? Bah, c'est varié, je pense. Ça dépend de qui on rencontre. De quoi on aurait besoin comme accompagnement? Je dirais que c'est vrai qu'il y aurait besoin peut-être d'un meilleur écosystème. Parce que, au-delà d'avoir un conseiller, si on peut dire, avec qui on peut discuter, ce qu'il faudrait, c'est vraiment plus d'interaction avec d'autres entrepreneurs, plus une communauté. Je pense que ça, c'est important. Et je pense qu'effectivement, en France, en ce moment, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se mettre en place à ce niveau-là, où la preuve, c'est que maintenant, le NS de Lyon m'invite à une journée carrière. C'est donc bien que l'entrepreneuriat et le côté start-up est en train de pénétrer la société française et c'est pas si mal.
Justement, vous évoquiez ça dans la création de votre entreprise. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées et comment avez-vous réussi à y remédier, notamment quelle aide vous avez reçue, aide morale, aide matérielle, quel soutien?
Bon, il faut savoir une chose quand même. Hein. Alors, ça serait peut-être différent pour d'autres, mais je pense qu'à un moment... Effectivement, quand on crée une entreprise pour la première fois et qu'on vient d'un milieu où c'était pas forcément naturel, on va rencontrer des tonnes de difficultés, des tonnes de problèmes. Et malheureusement, dans 90% des cas, il va falloir trouver une solution soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être conscient que on peut avoir un accompagnement, des gens qui aident, mais en fait, la difficulté d'être entrepreneur, c'est d'aller soi-même chercher les informations, de, je dirais, remettre en question à peu près tout. Il y a des ressources, aussi bien humaines, financières ou d'autres. Il y a beaucoup de structures qui permettent d'être aidées, accompagnées ponctuellement, etc. Mais au final, la décision, la responsabilité, elle est individuelle. Et c'est vrai que ça, c'est très difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut rien lâcher, quoi. Le moindre truc peut être, quand on est tout petit et tout jeune, peut être fatal. Donc c'est vrai que c'est un engagement de tous les instants pour apprendre à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, en essayant de faire tous les bons choix au fur et à mesure. Alors, on fait jamais tous les bons choix, mais d'en faire un maximum pour continuer.
Alors, pour approfondir un petit peu donc le lancement de votre entreprise Qsit, quel était l'état du marché au moment où vous êtes lancé? Qu'en est-il actuellement? C'est-à-dire, qui sont vos concurrents? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est un marché fortement concurrentiel?
Oui, et puis du coup aussi, quels sont les clients? Parce que ça correspond, j'imagine, à un besoin que vous avez identifié, mais est-ce que finalement c'est aussi une niche? Et voilà, quelles sont les perspectives au moment où vous avez fondé votre entreprise et puis surtout maintenant?
Alors, le fait qu'il y ait un marché, je pense que c'est indéniable. Ça dépend ce qu'on considère comme étant notre marché. Si notre marché, c'est celui de la mobilité urbaine ou plus généralement, finalement, de la prédiction et l'optimisation de tout ce qui bouge en ville, que ce soit des flux de gens, ou des flux d'autres choses. Bon, l'existence du marché, je pense qu'elle est peut-être actée par l'argent qui est investi par des gros acteurs comme IBM ou quoi, pour se positionner sur ce marché-là. Nos clients aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille en B2B, c'est plutôt des grands groupes, donc des grands groupes de transport ou d'autres. On a quelques-uns avec qui on est en train de discuter qui sont pas des groupes de transport, mais qui vont quand même sur le milieu des smart cities. Ensuite, éventuellement des collectivités. Pour le moment, on n'a pas encore trop travaillé avec les collectivités, mais ça me paraît normal si on veut résoudre des problèmes de transport, voire d'infrastructure, d'aller voir les collectivités. La concurrence. Bah, évidemment, aujourd'hui, ça dépend dans quel marché on nous met. Si on nous met sur les big data, il y a énormément de boîtes qui traitent des données. Si on nous met sur tout ce qui est smart cities, il y en a un peu moins, mais il y en a encore même pas mal. Et il y en a pas mal aux États-Unis. Si évidemment on regarde juste le vélo en libre service, par contre, et qu'on regarde juste l'analyse des données du vélo en libre service, il y a quand même vachement moins de concurrence parce qu'on a la chance en France d'avoir été quasiment les inventeurs de ça. Hein. D'ailleurs, Lyon, c'était la première ville à avoir ce système de vélo en libre service. Il y avait bien eu des tentatives avant, mais c'était pas la même techno. La techno où on a un badge et où on peut prendre n'importe quelle heure du jour et de la nuit son vélo et le ramener ailleurs, ça a vraiment démarré à Lyon. Puis ensuite, ça s'est étendu en France, en Europe et aujourd'hui beaucoup en États-Unis et en Chine. Mais donc, il y a quand même une petite avance sur ces systèmes-là. Donc, c'est un marché sympa. Aujourd'hui, c'est ce marché de niche des vélos en libre-service. C'est vraiment un point de démarrage sur lequel on en profite pour construire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire nos modèles de ville qui vont être réutilisables après pour décrire n'importe quel type de mobilité. Et donc, si on part sur le truc qu'on vient de sortir là, sur le stationnement, là par contre, effectivement, des startups qui essayent de résoudre les problèmes du stationnement en ville, il y en a un paquet. Nous, on a une approche assez originale qu'on n'a pas encore trop vue ailleurs, Mais oui, c'est vrai que c'est un marché très compétitif, parce que c'est vrai que c'est un problème que les gens connaissent beaucoup mieux, le problème du stationnement, les gens le connaissent beaucoup mieux que le problème des vélos en libre-service.
Quels sont vos projets et vos ambitions pour l'avenir de Qcite, à la fois sur le court terme, c'est-à-dire sur l'année prochaine, puisque je pense qu'il y a toujours des objectifs intermédiaires, parce qu'il faut progresser au jour le jour, et en même temps sur un moyen terme, en termes de stratégie de développement?
Alors, sur 2016, quels vont être les objectifs sur 2016? Sur 2016, ça va être valider qu'on est capable de commercialiser des produits, en fait. C'est-à-dire être capable de répliquer ce qu'on a fait sur une ville comme Bordeaux dans beaucoup d'autres villes. Donc ça, c'est important. La deuxième chose qui est donc du coup de décoller commercialement. On va dire, après avoir construit un certain nombre de choses depuis la création, c'est-à-dire depuis 14-15 mois, maintenant le commercialiser de manière réplicable, en fait. La deuxième chose qui va se passer en 2016, c'est qu'on va lever des fonds, histoire de pouvoir avoir plus de visibilité et de construire une super équipe.
Donc du coup, tu viens de dire que tu cherchais à constituer une équipe de choc dans les mois à venir. Du coup, des appels d'offres ou des appels à candidature à faire passer sur Transistor?
Ah bah oui, bien sûr, avec plaisir. Hein. Si vous avez envie d'appliquer ce que vous, c'est vrai que les profils qu'on recherche, c'est plutôt des profils scientifiques quand même à court terme, c'est-à-dire des gens qui font de l'informatique, des maths, de la physique et qui ont envie de faire tout ce qu'on appelle aujourd'hui data science. Donc évidemment, oui, on va recruter ces profils en 2016. Donc n'hésitez pas à regarder nos sites web, nos offres d'emploi et à me contacter directement, raphaël@qcite.com.
Donc, normalien, agrégé, enseignant dans de grands établissements, vous proposez vos services à la mairie de Bordeaux, donc au système de vélo de libre service en partenariat avec la municipalité de Bordeaux. Puis vous participez aussi à un certain nombre de projets finalement d'utilité, si j'ose dire, publique, qui d'ailleurs vous rapporte un certain nombre de distinctions officielles données par un certain nombre d'instances publiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à justement la région Aquitaine. Et finalement, entrepreneur, vous continuez d'œuvrer au progrès de la collectivité. L'entreprise, la vôtre en tout cas, est-elle pour vous une forme de service public?
Une forme de service public. Alors, c'est pas à moi de définir quelles sont les missions du service public. Ceci dit, le fait que l'entreprise doive... Enfin, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est faire une entreprise qui crée de la valeur. Alors, est-ce que créer de la valeur, c'est une mission de service public ou pas? Mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, faire de la finance où, en fait, on redistribue de la valeur, par exemple, c'est-à-dire on la prend à droite pour la mettre à gauche, c'était quelque chose qui m'intéressait moins que de créer une entreprise qui, dont le but est réellement de créer de la valeur. Par exemple, si on améliore la qualité de la mobilité en ville, si grâce à ça, les gens perdent moins de temps dans les transports, si on gaspille moins de ressources naturelles, c'est quelque chose qui, évidemment, me motive beaucoup plus que de faire quelque chose qui ne crée pas de valeur. Est-ce que c'est du service public? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ma vision de l'entreprise.
Justement, vous parlez de valeur. L'écologie, le souci de l'environnement et également du bien-être des individus, ont-ils toujours été une préoccupation pour vous?
Le souci du bien-être des individus, est-ce que ça a toujours été une préoccupation? Franchement, je pourrais pas dire que ça a toujours été le cas, non. Je me suis toujours intéressé à mon environnement et j'ai toujours été intéressé par le monde qui m'entourait, en fait. De là à dire que le bien-être des individus a toujours été une préoccupation, ça serait un petit peu fort.
Et l'écologie?
L'écologie, beaucoup plus, oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé et qui, à mon avis, est orthogonal à toute forme de positionnement politique, en tout cas.
Donc, tu disais tout à l'heure avoir délaissé ta charge d'enseignement pour finalement fonder ta start-up. Alors, aujourd'hui, officiellement, tu es entrepreneur. Tu es donc passé du côté obscur de la force, le secteur privé. Non. Comment ce pantouflage a-t-il été perçu par tes proches et par tes pairs aussi?
Le passage du côté du secteur privé, tu veux dire? Le fait que j'étais un gentil serviteur de l'État qui est passé du côté obscur de la force, c'est ça? Alors du côté de ma famille, ça s'est très bien passé. Ils n'ont pas de problème avec ça. Du côté de mes pairs, c'est-à-dire par exemple mes collègues enseignants-chercheurs, Je pense qu'ils voyaient bien que je m'ennuyais un petit peu et que j'étais pas très heureux dans mon boulot ces dernières années. Donc, ceux qui m'aiment bien ont trouvé ça cool que je me lance pour faire quelque chose qui me motivait. Ensuite, c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas remis les pieds à l'ENS. Donc, je me souviens plus dans quel état d'esprit j'étais exactement à l'époque et si je considérais qu'effectivement l'entreprise c'était le mal ou pas. Ceci dit, je pense qu'il faut pas confondre des grosses entreprises qui existent depuis, qui embauchent des tonnes de salariés. Donc, on peut considérer qu'effectivement elles ont ce petit côté un petit peu machine à broyer les gens ou je ne sais quoi, avec une start-up qui est quelque chose de tout neuf, c'est un petit bébé qui naît, donc le comparer à Satan, c'est un petit peu violent.
Donc, en conclusion, normalien et patron, c'est possible.
J'espère, oui.
D'accord. Écoute, merci Raphaël pour l'interview et d'avoir bien voulu te prêter à ce jeu de questions-réponses de manière en plus parfaitement improvisé, hein, je tiens à le signaler à nos auditeurs. Également, je m'excuse auprès de nos auditeurs pour ce va-et-vient entre le tu et le vous au cours de l'interview. Hein. C'est jamais facile de savoir comment on s'adresse aux gens. Écoutez, chers auditeurs, c'est la fin de Il y a une vie après normale. Nous espérons que l'interview de Raphaël vous aura plu et que vous allez vous précipiter sur le site internet de sa start-up pour savoir de quoi il retourne et éventuellement postuler. Nous reviendrons très vite dans un prochain numéro.